Bonjour à toutes et à tous. Nous pouvons remercier le Seigneur de ce que nous permettre d'avoir ce temps, non seulement pour vivre ce culte, mais aussi qu'on ait des frères et sœurs sinophones qui s'occupent de notre stand de brocante en ce moment même. Et nous voulons vraiment lui rendre grâce pour cela. Dites-moi, quelle est la meilleure nouvelle que vous ayez entendue dans votre vie? Quelle est la meilleure nouvelle que vous ayez entendue dans votre vie? Pour certains, ce sera la naissance d'un enfant. Pour d'autres, la réussite à un examen important. Pour d'autres, la nouvelle d'une guérison inattendue. Et vous direz peut-être qu'en fait, la meilleure nouvelle que vous ayez entendue, c'est l'Évangile. Ce mot qui signifie bonne nouvelle. Mais pourquoi serait-ce la meilleure nouvelle par rapport à toutes les autres que je viens de mentionner? Je crois que le texte de cet après-midi que Francis nous a lu nous donne des éléments de réponse. Et pendant 3 dimanches, nous nous arrêterons sur un extrait composé par l'un des 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et en réalité, grands prophètes parce qu'ils ont beaucoup écrit ou fait écrire, comparé à d'autres prophètes qui ont laissé des écrits plus courts. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à Ésaïe, dont nous avons brièvement parlé la semaine dernière. Dans les groupes de maison, vous étudiez aussi les derniers chapitres de son livre. Ésaïe, c'est un prophète de Dieu qui a vécu, entre autres, à l'époque du roi Ézéchias. Mais dans la période qui suit, le royaume de Juda va sombrer de nouveau dans l'idolâtrie, sous l'impulsion du plus mauvais roi de Juda, Manassé, le fils d'Ézéchias. Ce dernier va jusqu'à construire des autels destinés aux idoles dans le temple de l'Éternel. Et bien sûr, Dieu ne laissera pas passer ça et annonce que la fin du royaume de Juda a été décidée. Et dans ce contexte de troubles, d'infidélité, comment encourager les hommes et les femmes qui restent encore fidèles à Dieu? Eh bien, telle est la tâche d'Ésaïe, le porte-parole de l'Éternel. Comment encourager les hommes et les femmes qui restent encore fidèles à Dieu dans un climat où le reste du peuple est totalement infidèle? Le message qui débute au chapitre 40 est destiné à encourager ceux qui l'entendent, à nourrir l'espérance des croyants de cette époque, mais aussi des époques suivantes. Il y a une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Dieu va venir lui-même. Et le premier verset de notre texte donne le ton. Consolez, consolez mon peuple. Visiblement, il s'adresse à un peuple découragé, affligé, qui a besoin d'être consolé. Et vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, c'est un message qui s'adresse d'abord à nos oreilles. Le mot voix est répété plusieurs fois, ainsi que le verbe crier ou des verbes équivalents. Pourquoi crier si ce n'était pas une bonne nouvelle? Il me semble que ce début d'Ésaïe 40 nous amène à considérer la venue du Seigneur comme la plus grande nouvelle qui soit. Ce début du chapitre 40 nous amène à considérer la venue du Seigneur comme la plus grande nouvelle qui soit. Et ce message nous est crié aux oreilles avec 4 paroles qui méritent notre attention. J'ai intitulé la première parole des versets 1 et 2 une parole réconfort. Une parole réconfort. Nous l'avons dit à l'instant. Dans ces 2 premiers versets, le thème est celui de la consolation. Consolez, consolez mon peuple. Le peuple de Juda sait qu'il va connaître l'exil, qu'il va devoir quitter sa propre terre pour être emmené à l'étranger sans le vouloir. En Ésaïe chapitre 39, le prophète avait déjà annoncé ce châtiment au roi Ézéchias. Les Babyloniens vont venir à Jérusalem et emporter hommes et biens. Les Judéens partiront donc en exil, loin de chez eux, loin de leur maison. À présent, dans le discours d'Ésaïe, quel soulagement pour le peuple de Dieu. Sa faute est expiée, verset 2. Le temps de son jugement a été suffisant. Imaginez l'enfant qui est puni à cause d'une bêtise et dont le parent vient lever la punition. L'enfant ne peut que se sentir soulagé. C'est ainsi que Dieu commence par consoler son peuple. Et ce dernier doit entendre ce message. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. La punition est levée. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Au contraire, il le console à présent et lui donne une perspective pour l'avenir. Si Dieu avait l'intention de détruire son peuple désobéissant et infidèle, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais voilà que Dieu montre toute sa compassion, toute sa grâce envers un peuple qui ne peut pas s'en sortir par lui-même. Le châtiment de l'exil aura bien lieu. C'est le temps de la punition, mais il ne durera pas indéfiniment. Ce qui laisse entrevoir, pour ceux qui lisent ce texte, pour ceux qui l'entendent, ce qui laisse entrevoir un retour à la maison, un retour au pays d'Israël. Cependant, comme nous disons depuis le début, il y a une nouvelle plus grande que le retour d'exil. Il y a une nouvelle plus grande. J'aimerais souligner qu'ici, Dieu révèle de la compassion. Pour reprendre l'exemple des parents, je pense que les parents qui ont déjà puni leur enfant le savent. Ils savent comment consoler l'enfant qui pleure peut-être à cause de la punition. Dieu serait-il tout aussi disposé à nous pardonner lorsque nous nous sentons mal devant lui, lorsque la culpabilité nous ronge, lorsque nous avons l'impression que Dieu ne pourrait pas pardonner une faute aussi grave? Est-ce que Dieu est tout aussi disposé à nous pardonner? Eh bien oui, nous aujourd'hui, ça a été rappelé également dans le culte, Dieu est encore disposé à nous pardonner si nous venons à lui. Car la punition a été levée. Ce n'est pas nous qui avons reçu le salaire de tous nos péchés, mais c'est Christ. C'est Christ qui a payé pour nos fautes en mourant à la croix. Et cet événement historique, la mort de Jésus sur la croix, cet événement historique est notre consolation, car le pardon de Dieu nous est accessible. Dieu n'est pas du tout comme un parent qui reste à jamais en colère. Nous avons entendu au début de ce culte le psaume 103 qui nous parle de ce pardon de Dieu. Et j'aimerais lire encore d'autres versets qui affirment cette vérité. Le psaume 86, verset 5. Oui, tu es mon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est l'abattoir? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Et dans Néhémie chapitre 9, verset 17, dans une prière qui est adressée à Dieu, et après avoir évoqué l'infidélité du peuple, voici ce que nous lisons. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Il y a bien d'autres textes bibliques qui vont dans ce sens. Dieu ne garde pas sa colère à toujours, car Christ a payé pour les péchés de son peuple. Et si nous croyons en lui, nous sommes son peuple, et nous avons un Dieu qui pardonne. C'est une consolation pour nous, à chaque période de notre vie. Et peut-être qu'en ce moment même, tu as besoin de te souvenir de cela. Revenons à l'époque d'Ésaïe. Dieu déclare qu'il n'est donc plus en colère contre son peuple. Mais après cette parole réconfort, quelle est la parole suivante? Eh bien, les versets 3 à 5 nous indique une parole d'exhortation. Une voix s'élève, écrit un nouveau message. Ésaïe ne prend pas la peine de nous donner l'identité de cette voix. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elle crie. Quel est ce message ? Verset 3. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. » Si la punition est levée, ce n'est pas une occasion pour recommencer ses bêtises, pour commettre de nouveau les mêmes péchés. Au contraire, si Dieu lui fait grâce, le peuple doit choisir d'autres dispositions de cœur. Le peuple doit se préparer à la venue de son Dieu. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu. Cet appel du verset 3 est suivi d'une série d'images qui semblent nous dire que ce chemin doit être le plus plat possible. Des vallées comblées, des hauteurs abaissées. Un chemin plat. Ces métaphores renvoient à ce qui doit se passer en fait dans le cœur des Judéens. Ôter tout obstacle pour être bien disposé afin que... Et seule une attitude d'humilité tournée vers Dieu est appropriée. Seule une attitude d'humilité tournée vers Dieu est appropriée. Et si un chemin doit être préparé et que quelqu'un est en train de dire, comme nous pouvons préparer notre maison pour accueillir des invités, Ésaïe exhorte le peuple à se préparer pour la venue du Seigneur. Et d'après le Nouveau Testament, cette voix qui crie dans le désert est celle de Jean-Baptiste, qui plusieurs siècles plus tard, après Ésaïe, appelle ses contemporains à changer de comportement, à se tourner vers Dieu avant la venue de Jésus. Jésus, le Seigneur. Et voici comment l'apôtre Jean décrit Jésus dans Jean chapitre 1, verset 14. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jésus, en devenant homme, a rendu la gloire de Dieu visible. Et cette gloire dont Ésaïe parle au verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Nous pouvons nous poser la question, préparer le chemin de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, alors que le Seigneur est déjà... Si Ésaïe et Jean-Baptiste font allusion à un changement d'attitude qui doit commencer par un changement intérieur, nous pouvons nous demander s'il reste encore des obstacles à ôter dans notre propre cœur. Est-ce qu'il y a des choses à enlever dans notre propre cœur ? Notre cœur est parfois encore tellement dur. Nous ne sommes pas toujours disposés à un face-à-face avec le Seigneur. Il nous arrive même de ne pas avoir envie, alors que nous proclamons que nous croyons en lui, que nous avons une relation avec Dieu, mais parfois nous n'avons pas envie. Qu'est-ce qui cloche ? Quel caillou, quelle mauvaise herbe devons-nous encore enlever ? Est-ce que ce serait l'orgueil qui habite notre cœur ? Est-ce que ce serait une culpabilité démesurée ? Je me sens tellement coupable que je ne pense pas que je puisse vraiment me présenter devant Dieu. Est-ce que ce serait l'apitoiement sur soi ? Ma situation est tellement compliquée. Rien ne va. Je passe par des épreuves, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est Dieu qui m'en veut, peut-être. Comment puis-je me présenter devant Dieu dans cet état ? Dirions-nous. Mais justement, Dieu nous appelle à être humbles, afin de nous rendre compte que nous avons vraiment besoin de lui. Peut-être avons-nous trop compté sur nos propres forces et nous voilà déçus de ne pas être à la hauteur. Cet après-midi, j'aimerais te poser cette question. Comment va ton cœur en ce moment? Est-ce que tu es bien disposé devant Dieu? Et si ce n'est pas le cas, pour quelle raison? Mes amis, faisons appel à Dieu quand nous voyons encore tant de résistance dans notre cœur. Nous ne pouvons pas abattre notre propre orgueil, mais Dieu le peut totalement. Il peut abaisser des montagnes. Et comme pour nous y aider, les versets 6 à 8 nous rappellent une réalité fondamentale. Donc après une parole réconfort, après une parole exhortation, eh bien je vous propose de voir ensemble une parole vérité, versets 6 à 8. Une parole vérité. L'appel à l'unanimité se prononce par cette troisième parole. Au premier abord, c'est un tout autre registre. Nous avons cette mise en scène au début du verset 6. Une voix a été dit, proclame un message. J'ai répondu, que dois-je proclamer? Une manière d'attirer notre attention. Quel est ce message? Verset 6, toute créature est comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'homme est comparé à de l'herbe, à une fleur qui fane. Ce n'est pas flatteur pour l'être humain. Et c'est aussi l'effet recherché. L'homme, la femme, doivent reconnaître humblement qu'ils ne sont rien de plus qu'une fleur qui fait laiterie. Et par contraste, la parole de Dieu demeure éternellement. Elle demeure éternellement puisqu'elle vient du Dieu éternel. Alors que faut-il comprendre? Que tout être humain a besoin de cette parole. Que la vraie vie passe par la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Une parole qui demeure même après notre mort, pour les générations futures. Pour les contemporains d'Ésaïe, comme pour nous, c'est un message qui nous assure que la parole de Dieu est fiable, qu'elle traverse les époques et que ce que Dieu affirme va s'accomplir. Dans notre monde, nous sommes malheureusement habitués aux promesses non tenues. Il nous arrive aussi de ne pas tenir notre propre parole. Mais combien Dieu est différent. Vous ne trouverez pas une parole plus fiable que la sienne. Nous avons parfois l'impression ici-bas que la seule façon d'exister est de réussir sa vie, de s'affirmer, de marquer l'histoire d'une manière ou d'une autre, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et peut-être même que nous menons ce train de vie pour nous affirmer. Mais rien de tout cela n'est permanent. Et ces versets d'Ésaïe nous rappellent que nous ne sommes que de l'herbe destinée à dessécher. Une seule chose dans ce monde ne risque pas de passer de mode, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dit aux hommes. Nous pouvons et nous devons y accorder tout notre crédit, toute notre confiance en cette parole-là. L'homme n'est pas fiable, mais la parole de Dieu l'est, entièrement et toujours. Et cette troisième parole que nous sommes en train de décortiquer nous invite à persévérer, à continuer à croire en la parole qui nous vient de Dieu. Combien nous avons besoin de cette parole ? En citant Ésaïe, l'apôtre Pierre confirme que ce texte nous concerne aussi. Je lis dans 1 Pierre chapitre 1, et versets 23 à 25. Pierre écrit à ses destinataires, « En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Et Pierre termine, enfin en tout cas ici, en disant « Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » En tant que créature limitée, semblable à de l'herbe qui passe, nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu. Cette parole est sacrée parce que c'est par elle que nous connaissons Dieu et que nous connaissons celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas décidé de nous parler, nous n'aurions pas eu la possibilité de venir à lui. Et c'est par cette parole aussi que nous avons accès à la bonne nouvelle. Et c'est justement une bonne nouvelle qui nous est annoncée dans les derniers versets de notre texte. Une parole, une bonne nouvelle. Versets 9 à 11. Une parole, bonne nouvelle. Nous avons sans doute tous déjà vu ou lu des histoires où des personnages se trouvent dans une situation délicate, où les personnages sont en difficulté. Tout semble perdu jusqu'à ce que un autre personnage, un héros arrive pour sauver la situation. Je pense que c'est une expérience commune. Quelle tristesse s'il n'y aurait pas ce héros qui vient à la rescousse. Les histoires auraient une toute autre tournure. Mais là, nous parlons de fiction. Que nous dit Jésus concernant l'histoire de son peuple? Qu'est-ce qui doit consoler ce peuple avant tout? Qu'est-ce qui doit donner à ce peuple une raison d'espérer? Verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. En fait, ce n'est pas la première fois qu'Ésaïe parle de la venue du Seigneur. Et déjà, au chapitre 35, nous avions les prémices de cette annonce. Je vous lis simplement les versets 2 et 4. Ésaïe 35, verset 2. « On verra la gloire de l'Éternel. » Et puis le verset 4. « Voici votre Dieu, il viendra lui-même pour vous sauver. » La venue de l'Éternel est une bonne nouvelle liée au thème du salut. C'est ce que nous devons retenir lorsque nous lisons le chapitre 40. Si Dieu vient, c'est pour sauver son peuple. Ce n'est pas une histoire fictive, c'est ce que Dieu a promis. Si Dieu vient, c'est pour sauver son peuple. Cette nouvelle est si extraordinaire qu'il faut la crier avec force. Verset 9. Voici votre Dieu. Et l'Éternel est présenté dans ces versets à la fois comme le Dieu puissant qui vient délivrer son peuple et comme un berger qui vient prendre soin de son troupeau. Quelle parole de consolation! Dieu lui-même vient s'occuper de son peuple. Et pour les contemporains d'Ésaïe, c'est une parole pleine d'espérance. Dieu viendra en personne, c'est ce qu'ils attendent. Dieu viendra en personne avec force et puissance et avec douceur. Cette promesse, nous le savons, est devenue réalité au moment où Jésus est entré dans notre monde. C'est lui, le Seigneur, qu'Ésaïe annonçait. Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le bon berger qui connaît ses brebis et qui donne sa vie pour elle. Voici votre Dieu. Dieu qui accepte de venir dans ce monde pécheur pour donner sa vie, pour régler le problème du péché, de notre péché. Dieu a accompli des choses extraordinaires au cours de l'histoire d'Israël. La sortie d'Égypte, la libération du peuple de l'esclavage de l'Égypte. La conquête du pays promis face à des ennemis qui étaient tellement plus forts qu'Israël. Des miracles. et aussi de nombreuses victoires militaires. Oui, Dieu a accompli des choses extraordinaires au cours de l'histoire de ce peuple. Mais cette fois-ci, il vient en personne pour accomplir l'œuvre du salut qui nous donne la vie éternelle. Il n'y a rien de comparable à ça. Parmi toutes les choses extraordinaires que Dieu a pu faire, il n'y a rien de comparable à cela. C'est pourquoi la venue du Seigneur est la plus grande nouvelle qui soit. Elle est synonyme de salut pour nous. C'est pourquoi elle doit être annoncée à toute créature. Oui, Dieu est déjà venu dans notre histoire. Et c'est ce qui a tout bouleversé. C'est ce qui a transformé notre vie. Comment l'annoncer à ceux qui nous entourent? Comment parler de ce Dieu qui est venu pour sauver, qui est venu en berger pour s'occuper de celles et ceux qui lui appartiennent? Comment suivre cette injonction que nous avons ici au verset 9? Élève ta voix, n'aie pas peur. Si ces questions sont les vôtres, ce sont les miennes aussi. Et je n'ai pas de réponse toute faite à vous livrer. Comment annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent? Mais je suis certain d'une chose, l'évangile que nous annonçons est une bonne nouvelle. C'est quelque chose de positif. Elle est faite pour consoler. Elle est faite pour relever celui ou celle qui se sent si misérable devant Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle. Et peut-être que parfois, nous ayons cela. Ce n'est pas juste un message, c'est une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon dans cette nouvelle. Alors que le Seigneur nous donne la joie d'annoncer la bonne nouvelle. Je terminerai en vous posant cette question. Sommes-nous convaincus que la venue du Seigneur qui est annoncée ici au chapitre 40 d'Ésaïe, que la venue du Seigneur est la plus grande nouvelle qui soit? Sommes-nous convaincus de cela? Est-ce la plus grande nouvelle qui soit? Quatre paroles se sont fait entendre dans les versets du chapitre 40 d'Ésaïe, dans ces versets-là. Une parole réconfort, la punition, Dieu est disposé à pardonner. Une parole exhortation, gardons notre cœur humble devant le Seigneur. Une parole vérité, l'homme est semblable à une fleur qui fane, mais la parole de Dieu est toujours fiable. Une parole bonne nouvelle, le Seigneur promit de venir s'occuper de son peuple et il l'a fait en la personne de Jésus-Christ. Dieu a pris soin de préparer son peuple durant des siècles. Ici, avec Ésaïe, nous sommes en 700 avant Jésus-Christ. Dieu a pris soin de préparer son peuple durant des siècles avant la venue de Jésus. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans un temps d'attente où Dieu nous prépare avant le retour de Jésus. Et dans ce laps de temps d'attente, la bonne nouvelle doit encore être annoncée. Comme l'a écrit l'apôtre Paul, Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. C'est une bonne nouvelle. Alors, à qui irons-nous l'annoncer? Je vous invite à prendre un temps pour répondre à la parole de Dieu.